Ah bah la patron m'a convaincu.
Ben, je vous en prie, asseyez-vous.
Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Quelle est votre principale motivation ?
Chasser en recrutement. Action de contacter un candidat pour lui proposer une opportunité professionnelle. Pourtant, on voit trop souvent des retours comme
« Oh, encore un recruteur ! Il a vraiment rien compris à ce que je fais, lui !»
Salut, je suis Stan, recruteur chez Manify, et vous écoutez « Écrire pour recruter », le podcast sur l'approche candidat de l'agence de recrutement et Manify. Une vingtaine de minutes, un expert et un conseil concret pour améliorer tes messages d'approche. Aujourd'hui, on discute avec Rassam Yagmae. Rassam est le directeur recrutement de Doctolib et cofondateur du podcast Recruiter in the House. Tu sens toutes les années d'expérience derrière quand tu discutes avec lui, c'est fou. Et pour le coup, on a abordé un sujet des plus pratiques, l'équilibre entre approche personnalisée et ton temps. Comment lui-même formule ses approches et comment il les structure. Bref, des pépites de conseils pour recruter et approcher des candidats efficacement. Salut Rassam, comment tu vas ?
Salut, ça va très bien Stan, merci et toi ?
Ça va super bien, merci beaucoup d'être là. Sans perdre de temps, je vais te poser directement la première question. Quel est pour toi le meilleur conseil que tu pourrais donner à un recruteur pour contacter un candidat ?
Le meilleur conseil, si on est face à un profil LinkedIn par exemple, c'est ce qui arrive le plus souvent quand même aujourd'hui quand on est recruteur. Je dirais c'est de s'imaginer être à la place du candidat qui va lire ce message et se dire ok, qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter qui va retenir son attention un petit peu plus de 2-3 secondes et qui va lui donner envie de potentiellement me répondre.
Après, okay, donc vraiment se mettre à la place donc, du candidat, regarder son profil LinkedIn, c'est quoi un peu les informations que tu regardes?
Alors les grands classiques, hein, de toute façon, je pense qu'on s'arrête tous sur le nom, le titre et la photo. C'est les trois infos de base qu'on a avant de vouloir cliquer un petit peu plus loin et regarder plus en détail. Et souvent, on peut déjà, dans ces trois infos de base, la photo nous donne beaucoup d'informations, le nom peut nous donner des informations, de l'inspiration, des références, et le titre de poste ou la boîte, le company où il travaille. Déjà sur ces quatre infos de base, on peut créer un message qui a de l'impact, qui a de la personnalisation, qui donne envie. Après, derrière, si, en fait, pour moi, c'est un peu toujours le jeu de le temps étant une ressource super importante partout, mais surtout dans le recrutement. À chaque fois que je vais investir 5 secondes de plus de temps que je passe sur le profil, c'est a priori que je n'ai pas réussi à trouver quelque chose avant. Voilà, je vais d'abord regarder ces quatre éléments de base. Je n'ai pas l'inspiration, je n'ai pas le truc qui fait clic. Et ben, j'investis 5 secondes de plus et à chaque fois vraiment partir là-dessus et de se dire que il y a jamais un investissement qui doit être 5 minutes, 10 minutes passées sur un profil, non, c'est vraiment je mets 10 secondes de base, je rajoute 5 secondes, je rajoute 5 secondes et à chaque fois en rajoutant quelques secondes, normalement on peut arriver à glaner assez d'informations pour avoir une inspiration et de la préparation, on y verra peut-être, mais sur tout ce qui peut se pré-templatiser en amont pour tout de suite aller catcher le minimum qu'on veut personnaliser.
Non, je pense que justement, j'aimerais bien aller vers ce sujet, on a parlé un petit peu off, je trouve ça très intéressant. Il y a comme un stéréotype que quand on doit faire de la personnalisation, ça peut prendre beaucoup de temps, par exemple, ou de créativité. Comment justement tu ferais pour optimiser et trouver l'équilibre parfait entre temps et message impactant?
Oui, je pense que voilà, la préparation, ça c'est un point super important. Une fois qu'on connaît son métier, qu'on connaît sa boîte, qu'on connaît le type de profil et à quelle cadence on relance des candidats, quel type de talent pool on anime, etc., on peut très vite anticiper des sessions de sourcing. On peut faire des sessions de sourcing de relance de candidats qui ont toujours été relancés. On peut faire des sessions de sourcing de candidats qui sont open to opportunities sur LinkedIn. On peut faire des sessions de sourcing des gens sur d'autres plateformes, etc. Et en fait, tout ça peut se préparer sur des templates. Par exemple, le template le plus classique que je recommande de préparer, c'est le Open to Opportunities, parce que souvent en tant que recruteur, on va aller au plus simple, et puis c'est très bien d'ailleurs d'optimiser. On lance une search et on va tout de suite aller plutôt contacter les candidats qui nous intéressent, qui sont en plus Open to Opportunities, parce que le taux de réponse a priori on peut assumer qu'il soit plus élevé, et donc d'avoir un template spécifique pour cela, pour qu'à chaque fois on se dise pas qu'on va taper j'ai vu que tu étais open to opportunities, est-ce que c'est encore le cas, ou à la fin, vu que c'est le cas, nanani. En fait, a priori, ces candidats-là, il y a au moins 5 ou 6 points qui seront toujours les mêmes, des choses qu'on va leur dire. Donc d'avoir un template open to opportunities, après tu peux aller décliner ça sur open to opportunities since 6 months, open to opportunities this country, et donc d'avoir vraiment, bon, après ça c'est peut-être overkiller le truc, mais au moins d'avoir des grandes sessions où aujourd'hui je vais relancer, aujourd'hui je vais aller vers des open opportunities, et donc d'avoir des templates, et après comme ça, boum boum boum, les infos, et ben c'est les grands classiques qu'on va aller essayer d'aller un peu personnaliser ou ultra personnaliser si on est très inspiré.
Ok, en vrai c'est vraiment la première fois, c'est vrai que j'entends ça, de finalement aller voir un petit peu le statut, tu sais, de la personne et de te faire vraiment des batchs, on va dire, selon en fonction de pouvoir avoir la motivation facilement, en fait, on va dire, du candidat. Je suis curieux, il y a Open to Opportunities, et tu aurais quoi d'autre un petit peu comme segment que tu pourrais définir les candidats?
Je pense qu'en fait, il y a un document, justement, on en parlait en off aussi, sur lequel j'avais bossé en interne pour donner des tips où est-ce qu'on peut aller regarder, où est-ce qu'on peut aller glaner des informations. Moi, typiquement, et je regarde pour m'en rappeler, je regarde les 4 infos de base dont on parlait, qui vont nous donner des éléments sur le titre, la photo, company, etc. Donc ça peut être très bien, si on parle des companies, et souvent en sourcing on va faire des batchs de je sais pas, SaaS companies, healthcare companies, machin companies, etc. Donc là on sait qu'a priori c'est des gens qui vont bosser dans ce secteur, donc ça peut être très bien, secteur d'activité, ça peut être open to opportunities ou pas open to opportunities, ça peut être on changeait de job ou on relocate tant de temps, parce qu'on va y venir, mais ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est jouer sur le fait de acknowledge le fait que la personne a changé récemment ou pas, ou qu'elle a changé de pays récemment ou pas. Et après il y a des autres endroits que je regarde très beaucoup, c'est à la fin, quand tu scrolls tout en bas de LinkedIn, tu as les langues parlées, d'autres choses qu'ils mettent à titre perso, qu'est-ce qu'ils font dans l'associatif ou etc. Et en fait je trouve que là-dessus il y a beaucoup de choses, notamment sur les langues, parce qu'en fait très facilement, moi si on va sur mon profil, on va voir que j'ai mis Persian, donc français, anglais, espagnol, c'est des grands classiques, mais Persian c'est un petit peu plus exotique, c'est du persan, c'est de l'iranien, donc soit un recruteur iranien va me contacter, a priori il va forcément avoir envie peut-être de me parler en iranien, mais même si c'est pas le cas, plein de fois j'ai vu des langues un peu exotiques sur Google Trad, je suis allé rapidement trouver 2-3 mots qui pouvaient faire tilt dans la langue maternelle de la personne. Donc ça peut être aussi des batchs là-dessus où on va spécifier plutôt la langue, donc on amène son message, on construit son message autour de ah, j'ai vu que tu avais changé récemment de pays, j'ai vu que tu bossais dans tel secteur, j'ai vu que tu étais open opportunity, j'ai vu que tu parlais telle langue. Et après c'est juste optimiser son temps pour qu'on se dise voilà, on va pas passer 10 minutes à chaque fois à écrire le truc, et en 2 heures de sourcing on a quand même pu faire ces 50 reach out ou ces 20 reach out ou ces 30 reach out.
Non, totalement. C'est une technique aussi que j'utilisais aussi beaucoup. Dès que je voyais une langue un petit peu comme particulière, moi c'était plus par rapport au créole, parce que je viens de la Réunion, était tout de suite comme dans la phrase d'accroche ou de quoi, tu sais qu'il y a un lien qui se crée assez rapidement. C'était fort touche. Les candidats, c'est vraiment très, très cool à voir.
C'est sûr qu'il y a aussi un autre endroit, et peut-être pour finir, parce que moi souvent quand on me contacte j'ai l'impression que les gens font cet effort là, enfin les bons messages trouvent cette info, le fait que j'ai 2 filles, que j'aime le PSG, etc. C'est dans mon petit detail summary, le résumé qu'on met sur LinkedIn, en fait si quelqu'un a pris la peine d'écrire un résumé, il faut a priori essayer de rebondir dessus, c'est que la personne veut qu'on la définisse ou qu'on la découvre par ces mots-là, par ces éléments-là, quoi.
Mais justement pour retourner sur ces templates, parce que c'est vraiment en fait la base qui va te permettre un petit peu d'optimiser au maximum ton temps et en même temps ton impact, je suis un peu curieux de savoir un peu comment tu les structures, c'est-à-dire déjà au niveau même de leur longueur, est-ce que tu as des longueurs à peu près définies que tu préfères, assez long ou assez court, et aussi un peu comment tu les entames.
En fait j'ai pas mal évolué, je dirais aujourd'hui en réalité, pour être très honnête, je fais peu de sourcing parce que je suis un peu plus dans le fait de construire et manager des équipes, donc en réalité j'ai plus trop le temps ni le besoin de faire du sourcing moi-même, mais bon, ça m'arrive beaucoup quand même encore d'envoyer des messages ou vouloir faire presque à titre personnel de la prospection sur certains sujets, donc le fait d'attirer l'attention c'est quelque chose qui m'intéresse, et j'ai pas mal navigué entre des avis de oui, il faut envoyer beaucoup de contenu dès le premier message, envoyer des liens, envoyer des chiffres clés, ou plutôt justement être un peu mystérieux dans le premier et ensuite donner des infos dans les follow-up et dans les nurturing messages, etc. En réalité, il y a quelqu'un, par exemple, comme Guillaume Alexandre, que tu connais peut-être de nom. Guillaume Alexandre a beaucoup théorisé là-dessus, a même parlé de comment on construit son message physiquement sur le triangle pour que l'œil puisse suivre plus facilement, des choses comme ça. Aujourd'hui, je me suis un petit peu éloigné du côté scientifique de la chose pour me dire, est-ce qui marche le mieux en ce moment pour moi ? Et peut-être c'est lié parce que j'ai un titre manager, directeur, machin, et que ça marche mieux, ou que je suis dans une boîte qui est plus en vogue que d'autres, etc. Donc évidemment tout est contextualisé, mais en tout cas en ce moment ce qui marche bien pour moi c'est d'être très court et de parler, enfin d'écrire comme si je parlais à la personne et que on venait d'accepter un call ensemble. Et donc voilà, très précis, très direct, très cash, en faisant référence à 2-3 points sur tout ce qu'on s'est dit, mais tout de suite rentrer dans le vif du sujet et de pas utiliser trop de contours. Donc je dirais court, précis et cash, c'est ce qui marche pour moi en ce moment.
Ouais, effectivement, ça dépend toujours du contexte, mais c'est vrai que il y a cette chose qui revient toujours, parler à la personne comme si tu parlais à l'oral, en fait, tout simplement, un petit peu, tu sais, d'avoir quelque chose d'assez friendly au final. Mm-hmm. Je sais pas, je sais que des fois il y a des différences un petit peu entre la France et le Québec. Je sais que le Québec, dans notre approche, des fois on tutoie, tu sais, peut-être plus facilement.
Ah, ouais.
Je sais pas, ouais, effectivement, je sais pas si en France, comme c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien aussi ou pas.
Bah, le tutoiement ou versus le vouvoiement, c'est un grand débat. Tu peux faire des 15 000 likes sur LinkedIn en faisant des posts là-dessus.
Mais c'est rapide.
Mais je pense que voilà, c'est un débat sans fin. C'est vrai que moi, avant d'être dans l'écosystème plus start-up, entre guillemets, j'avais plus tendance à vouvoyer de base. Et j'avais l'impression que c'est ce qui était plus accepté par la majorité. Et aujourd'hui que je suis de l'autre côté de la barrière, que je tutoie plus facilement, j'ai l'impression que la majorité des gens préfèrent se faire tutoyer, que le vouvoiement instaure une distance un peu inutile. Mais mais en vrai, c'est peut-être plus que mon cercle de personnes que je vais contacter vient plus de ce monde-là aussi, et donc c'est normal. Mais c'est vrai que l'anglais versus français, ou alors je sais pas par rapport aux Canadiens s'il y a des spécificités, mais le fait d'utiliser moins de mots pour dire la même chose, c'est quand même plutôt un point fort de la langue anglaise versus la langue française.
Totalement.
Donc il faut faire un effort en tant que francophone, il faut faire un effort pour réduire, enlever des mots, et enfin là c'est des techniques des copywriters classiques, mais il faut relire et relire son message et se dire voilà, ce mot là s'il n'apporte rien à la compréhension, je l'enlève, quoi.
Ouais, chaque phrase doit avoir un but, mais en tout cas, ouais, hormis le vouvoiement ou le tutoiement, ce ton friendly est quelque chose toujours qui peut bien fonctionner avec les candidats. On en parlait un petit peu aussi avant toujours, mais au niveau de la phrase d'accroche, je sais que tu me disais toujours de rester un peu clair et concis. Mm-hmm. Est-ce que tu as d'autres informations, peut-être utiliser je sais pas si tu utilises aussi les informations du candidat, ou comment tu construis en tout cas ces objets d'email ou de messages d'accroche?
Oui, la phrase d'accroche, et pour être bien précis, on parle là de l'objet du mail, sous chose qu'on va voir en scrollant rapidement son inbox, ou qu'on met dans la case tout au-dessus avant de mettre son message dans les emails. Là-dessus, pareil, avant, pendant très longtemps, je faisais des copier-coller d'opportunités professionnelles ou choses comme ça. Et encore que, tu vois, là-dessus, j'entends pas mal de gens, tu vois, rigoler de gens qui mettent encore opportunités professionnelles. Mais très récemment, et je pense que c'était avec des discussions peut-être encore avec Guillaume Alexandre, où, en fait, opportunités professionnelles, c'était peut-être P.A. Fortin qui disait ça, opportunités professionnelles, c'est quand même très précis, on sait de quoi on parle, parce que souvent, quand on reçoit un email, on peut se dire, est-ce qu'on est en train de me solliciter pour me vendre un tool? Est-ce qu'on veut me solliciter pour discuter d'un sujet? Ou est-ce qu'on est en train de me chasser? Ou est-ce que c'est un candidat qui veut postuler chez moi? Et donc, opportunité professionnelle, c'est quand même, dans l'absolu, assez cool, je trouve, si on met les éléments de... et ça, c'est les grands classiques de, tu sais, location, job et salary. Et en gros, si dans l'email, déjà, il y a ces quatre points-là, en termes d'informations factuelles qui intéressent les candidats aujourd'hui, en gros, où est-ce que est posé le job, combien ça me paye et qu'est-ce que je vais y faire ou pour quelle boîte, c'est quand même à peu près les quatre infos de base dont tu as besoin pour savoir si tu as envie de cliquer sur le message. Mais tout en disant ça, c'est pas vraiment ce que je fais moi ce que j'aime bien faire dans les objets de mail, c'est justement Vu que mon template éventuellement il est déjà plutôt bien rempli et il est cool quoi, il est peut-être pas ultra personnalisé mais il est plutôt écrit de manière cash cool pour donner envie de répondre, et bah je vais mettre la personnalisation plutôt dans l'objet de mail parce que okay. je me dis souvent que tu vois là on discute depuis tout à l'heure, si chacun de nous quand on va raccrocher notre call on va aller dans notre inbox, on aura reçu peut-être 3, 5, 10, 20, 100 mails selon le flow et le volume, mais on va devoir scroller là-dessus et il y a les noms des gens, donc on les connaît, c'est de l'interne, c'est de l'externe. Si on connaît pas, c'est potentiellement de l'externe, et ensuite on lit l'objet pour savoir de quoi ça va nous parler. Et en fait, du coup, on comprend quand même que c'est le moment où la personne va décider s'il clique ou pas sur ton message. Et donc là, par rapport aux tendances, à un moment j'étais pas mal dans les emojis quand c'était pas encore quelque chose qui était mainstream, ouais, trop, exactement. C'était il y a peut-être, allez, en 2018-2019, c'était encore possible, je trouve, de jouer sur les emojis pour que dans ton inbox, ton message soit un peu highlighté par rapport aux autres, parce que même visuellement, t'as un emoji, alors qu'aujourd'hui, bon, tous les messages ont des emojis, et c'est presque l'inverse. Il y a un emoji, donc c'est un spam, donc c'est un truc commercial, donc c'est un truc que t'as pas envie d'ouvrir. Mais du coup, c'est pour dire que tout est contextuel, faut toujours contextualiser les choses, et si tu lis un article d'il y a 3 ans, c'est peut-être pas aujourd'hui ce qui va marcher forcément. Donc il y avait ça, les emojis, mais par contre c'est non, moi c'est plus tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur quelqu'un qui est parti de Berlin pour aller à Amsterdam. Je vais dire tu vois, how's it going from Berlin to Amsterdam, ou quelqu'un qui a changé de tel secteur à tel secteur, je vais faire référence à ça, ou quelqu'un qui est open to opportunities qui habite à Londres et qui est open to opportunities to Paris, je vais dire still open to move to France, avec un drapeau français, parce que je me dis que si la personne cherche en France, bah, c'est quelque chose qui, quand même, qui va être un peu top of mind pour elle. Donc ouais, c'est quelques exemples de choses que j'aime bien mettre en place.
Ok, toujours orienté vers le candidat. Donc ouais, pour reprendre un petit peu cette structure des templates, de ce que j'ai vu, donc c'est, de ce que je comprends, c'est assez concis, toujours orienté vers le candidat, c'est-à-dire essayer de capter ces quelques informations. Comme tu parlais un peu de ces 4 grandes informations, ou sinon un petit peu en bas, tous ces likes et tout ce qui est autour de lui pour après l'intégrer dans le message.
Ouais.
Tu as cette phrase d'accroche dont on a parlé, et ensuite tes premières phrases, ça va ressembler à quoi un petit peu au niveau de l'introduction, je veux dire.
Ouais, bah, je pense que si je. Encore une fois, vu que je. Si c'est quelque chose de l'ordre de quelqu'un qui vient de changer de poste ou qui a bougé, qui a relocate, ça va être assez naturellement tout de suite en après les salutations classiques de congratulate, de féliciter, genre en mode bon bah bravo, j'ai vu que t'avais bougé, ou comment ça se passe alors depuis que t'as bougé depuis 6 mois, ou que vous avez bougé depuis X temps dans tel pays, et ensuite de rentrer dans le sujet du message, pas trop évidemment, parce que voilà, l'idée c'est pas de vraiment demander ça, c'est plus de faire référence au fait qu'on a vraiment ciblé ce message pour cette personne, et ensuite dire voilà la raison du message quoi, pour qu'on contacte, pourquoi. Et je suis presque plus jamais j'envoie des messages avec des informations sur ma boîte. Tu vois, genre oui, enfin je vais dire à un moment donné je suis Rassam en charge du recrutement chez Doctolib. Ouais. Peut-être dire Doctolib entre parenthèses leader healthcare sur marché, mais ça va pas être un truc du genre voilà, je travaille chez Doctolib, on a été fondé en un an, on a levé tant de millions, etc. Ça, je pense que c'est le genre de messages aujourd'hui qui sont justement un peu surpopulés dans l'esprit des candidats, ils saturent un peu de ce genre de messages, donc en ce moment j'y vais un peu mollo là-dessus. Et peut-être parce que là j'y pense à un truc que j'aime beaucoup faire et que je mets pas mal dans les accroches, dans les objets de mail. Tu sais, quand on disait tout à l'heure les endroits à regarder, donc on disait tout en haut le titre, le location, la photo de la personne, ensuite le summary de la personne parce que c'est elle qui l'a écrite forcément, donc c'est vraiment authentique. Et ensuite, je vais tout en bas sur les langues, les awards, sur les trucs un peu perso, et surtout sur les diplômes. Je m'en fous des diplômes, par contre, je regarde où est-ce que la personne a eu son diplôme, parce que c'est quand même un truc dans la vie de quelqu'un, là où il a passé été étudiant. Tu vois, moi j'étais à la fac de Nanterre. Bon, même si ça n'a pas été un moment incroyable dans ma vie, je connais la fac de Nanterre comme ma poche. Enfin, en tout cas, ça a changé depuis, mais je connais, tu vois, le resto, le truc, comment on y va. Et donc, en fait, si je trouve quelqu'un qui a été à la fac de Nanterre, je peux tout de suite lui dire, ah ouais, est-ce que toi aussi, tu galérais le matin dans le RER, machin, est-ce que toi aussi, tu allais à ce grec-là, toi aussi, est-ce que tu faisais ça? ou bien même si je connais pas, et tu vois là c'est l'investissement des 5 secondes en plus, si vraiment j'ai toujours pas d'inspiration mais la personne a été à telle université, à Edinburgh, à Dublin, le cliquer vite fait, Google imager vite fait rapidement, voir s'il y a 2-3 infos sur lesquelles on peut rebondir, ou simplement faire état du fait que là, parce que je regardais un peu dans mes sentiments, j'ai vu un où je disais de Sky West, donc en fait la personne avait fait ses études à 50 ans en Yvelines, je connais pas forcément cette université mais je connais la ville et je connais qu'il y a un grand centre commercial qui s'appelle Sky West et la personne travaille à Berlin aujourd'hui, donc mon message ça va être de Sky West à Berlin, comment ça se passe, machin, etc, tu vois. Donc voilà, tout ça c'est rapide hein, parce que là, le temps que de te le dire ça a duré peut-être 20 secondes, donc en vrai, en moins d'une minute, tu peux avoir une accroche ultra personnalisée, donc c'est pas 20 minutes par message, c'est vraiment une matière de secondes.
Ouais, c'est ça, t'as vraiment le gros qui peut avoir déjà, donc déjà produit, et après tu vas personnaliser avec des trous, mais tu vas quand même prendre le temps donc, de t'intéresser à ce candidat. Ça me rappelle beaucoup de choses, comment dire, l'objet de mail dont tu me parles. Moi, je faisais beaucoup ça aussi pour quand je recrute en fait. En France, pour des personnes qui souhaitent aller au Canada, en fait, pour des personnes qui souhaitent aller au Québec, où souvent je vais aller, bah pareil, de Nanterre jusqu'à Montréal, où c'est ce style d'objet d'email qui,
bah, qui fonctionnait plutôt bien. Bah, toi, tu vois, si justement, effectivement, c'est un très bon exemple, tu vois, t'es recruteur, t'es au Canada, t'as un set de facts qui ne va pas bouger comme ça du jour au lendemain. Donc, et donc, ça, tu peux créer des templates et après, voilà, apporter juste quelques touches finales au message, quoi.
Non, totalement. Là, une de mes dernières questions qui est vraiment importante, c'est finalement, là, on parlait de cet équilibre entre, tu sais, messages à impact et optimiser aussi ton temps, tu sais. Mm-hmm. C'est quoi les bénéfices que tu en retires un petit peu et aussi les retours candidats que tu peux avoir?
Bah, les bénéfices, je pense que de manière très pragmatique, un recruteur, il veut que son taux de réponse soit élevé. Donc, et in fine, son taux de réponse positif, mais la personnalisation, aussi bon ton message soit-il, dans l'absolu, il n'a pas vocation à avoir un effet sur le côté positif ou négatif de la réponse, parce que le positif et négatif, faut rester humble, c'est la réalité personnelle du candidat. Est-ce qu'il ou elle sont dans un moment ouvert au marché? Après, tu peux parfois jouer sur le facteur X de quand c'est un petit peu je sais pas si je suis vraiment à l'écoute et ton message est tellement fou que oui, j'ai envie de te répondre, mais quand même c'est rare. Donc la plupart du temps, c'est ce que tu veux retirer, c'est un taux de réponse positif, un taux de réponse important. Donc ça doit être le premier truc driver qui doit t'animer, donc c'est a priori ce que je recherche en faisant ce type de message. Et après, derrière, oui, l'expérience candidat, ça commence aussi par là. C'est à partir du moment où tu commences à créer de l'émotion et un peu de storytelling autour de ces premiers échanges, c'est un petit peu comme dans une relation sociale, une relation humaine, une relation amoureuse, bah, les premiers instants, c'est là où tu vas de toute façon toujours te rappeler de comment on s'est connu, comment c'était, ah oui. Et donc beaucoup de candidats, je pense, que j'ai pu recruter, même là récemment, j'ai une personne chez Doctolib qui a quitté la boîte après quelques années, et dans son message de farewell avait fait tu vois, des petites dédicaces à pas mal de gens dans la boîte, et moi c'était merci Rassam qui m'a recruté, by the way je me rappelle deux jours de ton message où tu avais, et je pense que là pour le coup c'était justement, j'avais rebondi sur le fait qu'il parlait japonais et une langue un peu russe alors que le mec est français natal, tu vois, et je lui disais dans mon message, je crois que c'était genre en mode en vrai tu mens, c'est pas possible que tu parles vraiment fluent autant de langues et tout. Donc oui, c'est l'expérience candidat que tu crées, ça c'est sur le côté un peu plus romance, mais bon, c'est quand même très pragmatique, et en étant très KPI oriented, c'est ton taux de retour.
Avoir le plus haut taux de réponse avec toujours cette belle connexion émotionnelle. Ouais. Mais en tout cas, merci énormément pour tes conseils, Rassam.
Yes, bah merci à toi, merci pour l'invite.
Un plaisir.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté le podcast Écrire pour recruter. Si vous voulez approfondir le sujet du recrutement, n'hésitez pas à suivre son contenu qui est incroyable et à le contacter sur LinkedIn, Rassam Yagmae. Si vous voulez en apprendre davantage sur le copywriting en recrutement et améliorer vos approches candidats, vous pouvez vous connecter via mon profil Stan Folly. Et le plus important, si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, allez suivre la page d'entreprise de Humanify. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.